Derrière la magie du sport de haut niveau se cache une triste réalité d'athlètes malmenés et abusés. Et pour que ça cesse, il faut en parler.
Avec Jean-Luc Brassard, l'envers de la médaille. Mardi, 20h, sur la chaîne Témoin. Débrouillez dès maintenant.
Cube Radio.
Benoît Dutrisac.
À un moment donné, qui gère le système?
Mario Dumont.
Le point, c'est que si les tribunaux peuvent prendre des décisions...
La rencontre.
Dans les deux cas, c'est d'une absurdité qui défie l'intelligence.
Excuse-moi, je t'arrête là.
Non, pas toi, là.
Ça ne les regarde pas.
Mais je comprends sa crainte.
C'est pour les imbéciles.
La rencontre Dutrisac Dumont.
Mario, Benoît, bonjour à vous deux.
Bonjour.
Benoît, j'ai pensé à toi en regardant le journal et en voyant cette histoire de l'autoroute métropolitaine. Il y a de l'asphalte qui a été fait en 2021. Il va devoir être refait cette année parce que finalement, le bitume était pas bon. Puis on dit, ben non, inquiétez-vous pas, ça va être à coup nul. Je veux bien, mais en même temps, il va quand même falloir refermer la métropolitaine autour de l'autoroute des Caries puis de la 15 pour refaire ce bout-là. Je me suis dit que ça te rendrait heureux ce matin.
Je trouve ça sympathique, agréable pour lancer la fin de semaine. Là, tu dis, où sont... Et dans les revendications des ingénieurs, on a parlé des coupures de budget, de surveillance de travaux. En voici un exemple. Je pense qu'il est temps que M. Bonnardel laisse sa place comme ministre des Transports. Je pense qu'il a fait assez de dégâts. Je pense qu'il a été assez obsédé par le troisième lien qu'il en a oublié Montréal. Puis j'en ai vraiment assez de son incompétence généralisée. C'est assez, là. Il avait promis de faire autrement. Il avait promis d'arriver au ministère des Transports, là, et de changer la culture. Puis on voit la gang de navets, de cabochons, laisser faire des travaux majeurs sur une autoroute majeure en plein centre-ville, en plein Montréal, dans le nord de Montréal. Puis là, ben, il dit, ben, on va recommencer d'abord. Et qu'est-ce qui nous dit que les travaux là, au tunnel La Fontaine, en passant, le tunnel est ouvert toute la fin de semaine. Hein?
Ah,
bonne
oui.
nouvelle.
Ah,
bravo, tu vois. Oui.
Bon.
Ben oui, j'arrive avec une bonne nouvelle.
Pas croyable.
Mais qu'est-ce qui nous assure que les travaux vont être faits comme du monde? S'ils sont pas foutus de faire l'asphalte comme du monde sur la 40.
En même temps, si on fait l'asphalte tous les ans, il n'y aura pas de nid de poule.
C'est clair. Si on recommence, puis si on met des milliards par-dessus milliards par-dessus milliards, parce qu'on sait pas ce qu'on fait, on surveille pas les travaux, puis on fait des erreurs, puis c'est une erreur humaine. Ben l'erreur humaine va congestionner
davantage.
C'est
une erreur humaine d'entrepreneur, puis c'est l'entrepreneur qui va payer pour, là.
Où est la surveillance des travaux? La commission Charbonneau a mis l'accent là-dessus. C'est là où on s'est fait fourrer par des crosseurs, des entrepreneurs qui ont jamais fait de prison, mais qui ont extorqué les contribuables, puis qui ont fait un job de cochon. Où est le niveau de surveillance qu'on nous avait promis? François Bonnardel l'a pas livré. T'as un tunnel de 2 kilomètres, là, pis c'est le bordel à Montréal, puis après, là, il veut mettre 10 milliards pour en faire un de 9 kilomètres. Il est tellement obsédé par Québec, puis le vote à Québec, que là, c'est, je suis désolé, mais les gens dans le Grand Montréal métropolitain, je pense qu'il va falloir qu'ils s'arrêtent pis se demander, est-ce que la CAQ a été compétente à servir les services qu'on avait promis pour Montréal, le Grand Montréal? Moi, ma réponse, c'est non.
Mario?
Non, mais là, tout ça pour... Tu sais, Roxborough, je dis pas que c'est pas drôle. Là. Si j'étais là-bas, si j'étais quelqu'un qui passe régulièrement sur ce segment-là, je serais furieux, là. Mais c'est un...
Mais pense aux camionneurs, là.
Non, mais c'est un petit segment d'autoroute où il y a eu une gaffe majeure d'un entrepreneur qui a pas fait exactement le bon mélange de d'asphalte. Puis l'entrepreneur, il va manger ses bas, là. Il va manger 3 fois son profit qu'il avait fait sur ce job-là.
Mais comment ça, il y a personne pour vérifier? Du ministère des Transports.
Ben là, je découvre
comment
ça sincèrement. Je ne suis pas expert en construction pour savoir est-ce qu'il
est... Non, mais la surveillance routière, c'est une mode, Benoît.
Ah,
non, okay. Mais est-ce qu'il est d'usage normal là, de faire une analyse d'asphalte à chaque fois qu'une barrée d'asphalte est déposée? Sincèrement, je pense pas. En tout cas, dans ce cas-ci, ça semble pas être le cas. Est-ce qu'on devrait le faire? Est-ce qu'on devrait passer en laboratoire quand on arrive avec de l'asphalte, dire hey, vous posez pas ça tout de suite, là, faut en amener une tasse en laboratoire.
Pas en laboratoire, tu vas sur place. Écoute, il y a un comité d'experts
en 2019 qui est sorti. Non, mais je pense pas que tu vois ça, Benoît, je pense pas que tu vois ça à l'œil, là.
Ben là.
Tu regardes le tas d'asphalte, tu vois à l'œil que c'est pas le bon mélange.
Là. Excuse-moi, là, mais il y a un rapport, là, pour aller faire les travaux. Puis à un moment donné, tu vérifies les travaux, puis tu te promènes sur place. Comment
c'est
qu'ils l'ont trouvé? Ben, ils l'ont fait en retard. Ils l'ont fait une fois que la job est finie. Faites-le avant. C'est ça, travailler en cabochon. C'est travailler à l'envers. Tu sais, là, tu peux... Là, puis il y a un comité d'experts en 2019 là, qui disait on peut pas faire le troisième lien et le maintien des routes. C'est impossible. Il n'y a pas assez de personnel, le coût des travaux est trop énorme, il y a des nouveaux projets qui s'ajoutent sans arrêt, il y a eu gel d'embauche au ministère des Transports, on a de la misère avec nos ingénieurs, c'est-à-dire, on peut pas y arriver. Et Bonnardel est obsédé par le troisième lien.
C'est toi, Benoît, qui semble obsédé par ça. Je veux dire, à ce compte-là, on peut pas prolonger la ligne bleue parce que les transports en commun existants pourront plus rouler parce qu'on en fait un nouveau bout, voyons.
Ça a rien à voir, là. Ça a rien à voir.
Ben oui, ça a à voir. Ça a voir. C'est pas parce que tu construis un nouveau tunnel que toutes les autres routes du Québec vont être à l'abandon. Mais
quand t'as une pénurie de personnel, oui. Quand t'as pénurie de surveillants, parce qu'il y a eu coupure de budget de surveillance des travaux, oui. Quand tu passes ta vie entre Granby puis Québec, ben peut-être tu devrais la passer de temps en temps à Montréal. Puis le cabinet, toute la gang du ministère des Transports, ça fait 20 ans que je dis ça, devrait obligatoirement habiter à Montréal. Pas à Québec. Pas à Québec. Venez vivre à Montréal, puis on va voir l'impact de vos décisions et de votre incompétence crasse qui dure depuis des années, à laquelle vous ne répondez jamais.
Benoît, je pense que tu es nostalgique.
Peut-être.
De l'époque du gouvernement Couillard, où le ministre des Finances était dans Robert Baldwin, le président du Conseil du Trésor dans Nelligan, un autre ministre dans Saint-Laurent, un autre ministre dans Outremont, un autre ministre dans Mont-Royal, le ministre des Transports était dans Marguerite Bourgeois. 90% du budget du Québec était géré sur l'île de Montréal, à l'ouest de Montréal. Le ministre de la Santé était à Brossard, c'est vrai, juste l'autre bord du pont. Là, c'est plus ça. Maintenant, t'as un conseil des ministres qui est représentatif de l'ensemble du Québec. Mais t'as peut-être raison d'être nostalgique. Il fut une époque où tout le Québec était gouverné entièrement à l'ouest de Montréal. Tout le conseil des ministres, tout le cabinet était à l'ouest de Montréal, ou presque, là, à trois exceptions près.
Faut arrêter de penser que le centre du Québec, c'est Rivière-du-Loup, là. Faut arrêter de penser ça.
Messieurs. On va être dû pour un week-end de trois jours, là.
Non, mais c'est parce que faut circuler, là. Vous le faites à chaque jour. Toi, Mario, tu pars de la Rive-Sud, tu vas à Montréal. Tu dois être fou raide.
Je suis fou raide parce qu'ils ont fermé trois rues. Je veux dire, trois rues parallèles qui nous empêchent de se rendre au pont. Mais, Montréal, c'est le bordel à Montréal. On est habitué à ça, on le sait, là, mais c'est pas pire.
Le pont Mercier est en travaux depuis 15 ans. 15 ans. 15 ans. Le pont Mercier est en travaux depuis 15 ans.
Venez pas dire... Le pont Champlain flambant neuf, puis il est déjà en travaux, là.
Oui, il est déjà en travaux. Là, tu dis, écoutez, et là, Karl Marchand a appelé l'ancienne société des ponts. Là, ça a changé, puis la MTQ est rendue là-dedans. Et là, il nous annonce avec fierté qu'ils ont pavé le pont Jean-Cartier l'an passé parce qu'ils ont vu venir les travaux d'Hippolyte Lafontaine. J'ai fait bravo, je me suis mis à genoux, j'ai fait trois prières. C'est merveilleux. Bravo. Je n'ai que des félicitations à vous faire. Mais le reste, là, vraiment, vraiment, 15 ans, le pont Mercier. Expliquez-moi ça.
Bon, on peut parler de Huawei, Mario.
Oui, mais c'est une grosse décision, là. Faut la nommer, même si on s'y attendait pis on se disait qu'aucune autre décision était possible. Quand même une décision courageuse du gouvernement Trudeau. En ce qui me concerne, moi, c'est la bonne décision. Mais c'est pas sans impact, là. Moi, je m'attends à ce que d'ici 10 jours, là, il y ait des mesures, des représailles de la Chine, des mesures commerciales ou autres, là, pour frapper le Canada. Je serais le moins surpris du monde de voir arriver ça. Autant, tu sais, d'un côté, on se dit, ouais, mais on avait-tu le choix? C'est une évidence. Tous nos partenaires, le Royaume-Uni, les États-Unis, à l'époque, ils ont tous banni Huawei. Ça aurait été un risque pour notre sécurité nationale. Ça aurait été un risque pour la protection de notre savoir, de nos découvertes scientifiques et autres. Mais, tu dis, de l'autre côté, Huawei, là, puis la Chine, il était prêt pour ça, là. Tu sais, à Polytechnique, il y a une chaire Huawei, là. Huawei a investi au Canada au cours des dernières années beaucoup, a ouvert un bureau à l'époque du gouvernement Harper. Il y a 1500 personnes qui travaillent là maintenant, au Canada, 1500 employés de Huawei qui sont en sol canadien. Huawei a cru, là, ils ont cru sincèrement qu'ils étaient bienvenus installés au Canada pour y faire des affaires à long terme. Donc, c'est pas une petite rupture là, que l'annonce d'hier.
Benoît.
Je trouvais ça intéressant, moi, le Velchi, là, Monsieur Velchi, le vice-président des affaires aux en Amérique, là, pour Huawei, dit d'abord, c'est décevant pour les 1500 travailleurs canadiens. Opalaï! Ça a une incidence, mais ils vont sûrement être recrutés par les autres compagnies. Fait que ça, moi, je peux pas trop d'inquiétude. Mais il pose une question intéressante, par exemple. Il dit, ça fait 14 ans là, qu'on est dans les télécommunications au Canada. Est-ce qu'on peut me donner un exemple où Huawei a posé une menace à la sécurité nationale? Juste un exemple. J'ai fait, c'est une question, c'est une demande intéressante. Est-ce qu'on peut avoir un exemple?
Il y a quand même une belle enquête de nos collègues du bureau d'enquête là-dessus, là, sur la Chine, mm-hmm. qui avait volé de l'information, notamment à Nortel, qui a été et ces experts-là ont été recrutés par Huawei pour développer leur 5G.
Il y a un petit mystère sur le laboratoire de Winnipeg où, rappelons-le, deux chercheurs, un chercheur et une chercheuse, sont carrément disparus, là. Disparus. Les êtres humains physiques sont disparus dans la nature.
Ça se peut. Puis l'autre affaire, moi, je pense que c'est une décision qui a été influencée par l'OTAN, parce qu'on donne ça à Ericsson de la Suède et Nokia de la Finlande. Fait que voilà le résultat de l'invasion en Ukraine.
Ouais, c'est les joueurs les plus avancés là-dedans. Ils sont dans des démocraties, eux autres, au moins.
Ah, c'est ça la différence, hein?
C'est quand même une petite différence, là.
Mais bravo à M. Champagne d'avoir dit non, il n'y aura pas de compensation pour les compagnies qui doivent sortir Huawei de leur système, là. Bell et TELUS, ils ont fait des pressions sur Ottawa pour être indemnisés pour le retrait de l'équipement de Huawei. Puis M. Champagne dit non. Je pense que vous faites assez d'argent, vous pouvez vous arranger avec ça. Bravo, M. Champagne. Soyons positifs.
Un petit mot là-dessus encore, Mario.
Ouais, ici à Montréal, là, sur la montagne, là, la chaire de recherche industrielle, Huawei, sur les technologies sans fil du futur. Donc, au département de génie électrique de la Polytechnique, ils font des recherches sur le 5G. Donc, tu sais, quand on dit que la Chine s'est implantée avec l'idée qu'il faut dire la Chine. Huawei s'est implanté avec l'idée que, regarde, là, on s'installe au Canada, on devient un partenaire, puis le 5G, on va faire ensemble. Est-ce qu'on a été... Il y a comme un questionnement plus large que juste la décision du gouvernement hier, mais je serais bien curieux de voir ce matin la Polytechnique, puis à la chaire de recherche industrielle sur les technologies sans fil Huawei, comment on reçoit l'annonce d'hier. J'ai même pas l'info, là, combien Huawei a dû mettre là, de cash là, pour... mais tu sais, c'est l'argent de cette chaire de recherche-là vient conjointement de Huawei et d'un conseil de recherche canadien. Là. C'est le gouvernement et Huawei qui ont mis l'argent ensemble pour créer une chaire de recherche.
C'est pas le département James Bond, ça?
Non. Je suis curieux de voir le prochain débat.
Ouais, mais le prochain débat conservateur, j'ai hâte de voir la réponse de Jean Charest face à la décision du gouvernement Trudeau.
Non, mais de toute façon, lui, tout ce qu'il a fait, c'était pour libérer les deux Michael. Là.
Ah, c'est ça. Vraiment, j'ai de la misère le matin.
C'était pas du tout. Il a pas été payé des millions ou des milliers, là, mettons, de dollars pour aider Huawei à sa 5G.
Mais en octobre 2021, M. Charest prenait la défense. C'était intéressant. J'ai ressorti l'article de Francis Alain, puis il disait l'ex-premier ministre libéral Jean Charest dit ouvertement travailler pour ses clients chinois, a décoché hier une flèche bien sentie aux Américains qui ont mis le Canada entre l'arbre et l'écorce. Donc, tout ça, c'est de la faute de Donald Trump.
Voilà. On avait un bon bouc émissaire avant, au moins. Parle-moi du... ouais, c'était facile. Tout ce qui allait mal. Trump. PQ qui a ramassé plus d'argent que les autres partis, là, à quelques dollars près du Parti conservateur, Mario.
Ouais, et c'est quand même... je pense que ça doit vraiment étonner le public. Il y a une impression générale que le PQ est mort, que le PQ, ça va plus nulle part. Puis bon, si tu regardes les sondages, les intentions de vote, là, t'as des signes qui pointent dans cette direction-là. Mais moi, j'avais été marqué, quand je voyais ces chiffres-là hier, j'avais été marqué à la dernière élection par une tournée que je faisais, là, tournée surprise, là, pas annoncée. Je me promenais, j'étais allé à Longueuil, j'étais allé dans le nord de Montréal. Je débarquais dans les comités électoraux, comme ça. spontanément. Je me promenais avec mon auto. J'avais, tu sais, leurs adresses sont trouvables. Fait que je m'étais fait des listes de leurs adresses, puis je débarquais. Je l'avais fait l'après-midi. Je l'avais fait des fois le soir, début de soirée, après souper. Juste voir, c'est quoi la vie? Y a-tu du monde? Y a-tu des bénévoles? Tu sais, se faire une autre idée. Là, on a les sondages, puis tout ça. Se faire une autre idée de quelle partie est vivable. Et sans la moindre ambiguïté, là. Les locaux électoraux, il y avait du monde, des bénévoles, plein de monde, des téléphonistes, c'était le PQ. Ce parti-là a quand même un militantisme convaincu, des vrais fidèles, des gens qui, autant pour faire des dons que pour aller donner des heures, là, des gens qui sont investis, qui croient dans
le
parti.
Des rassemblements politiques provinciaux, c'est eux qui ont les plus gros tout le temps, ou presque, là.
Ouais, donc c'était juste un rappel. Je voyais ça, je me disais, écoute, monsieur, madame, tout le monde doit se dire, ben voyons, il y a une erreur, il y a une faute de frappe dans le journal, il y a une faute de frappe dans le reportage. Je ne sais pas que c'est le PQ qui des rapports donc qui se font là régulièrement. Le directeur des élections, ça se faisait pas avant, mais maintenant le directeur des élections fait des rapports, je sais pas, c'est à tous les mois, à tous les trois mois là, mais sur les dons recueillis. Remarquez que tous ces dons-là, c'est quelques centaines de milliers de dollars. On se comprend que ce sont des petits montants. Les partis vont dépenser des millions. Ce sera tous des fonds publics. Là, maintenant, les partis vivent à 80-90% avec des fonds publics. Mais quand même, c'est un test. Là, combien de gens font des dons? Puis qu'est-ce que le parti est capable de ramasser?
Puis, c'est quand même 4200 personnes là, au PQ.
Oui. Et arrive dernier quand même dans ce depuis une couple d'années, là, loin derrière tous les autres. Là, loin derrière le PQ, Québec solidaire, le Parti conservateur, la CAQ, arrivent les libéraux, qui étaient jadis une machine à ramasser de l'argent, des membres à mobiliser. Comme on dit, c'est plus ce que c'était.
Ouais. Depuis la commission Charbonneau, maintenant.
Ah, moi, j'ai un bémol à apporter à ça, là. D'abord, le PQ, là, devance le Parti conservateur de 2 000 $, là. Faut pas se rouler à terre. Moi, je suis sidéré de voir autant d'argent au Parti conservateur.
Ah, ben oui. Mais il était premier, écoute, avant. Il était premier. Ouais, le PQ l'a dépassé, là.
De 2 000 $. C'est pas une grosse avance. L'autre affaire, c'est, t'as encore cassé du sucre sur mes amis au Parti libéral, Mario, ça me fait de la peine, j'aime pas s'entendre.
Oui, je sais bien.
Non, mais le Parti libéral ferme la marche, selon l'article dans le journal, dans les partis représentés à l'Assemblée nationale avec 168 000 $. Toutefois, jeudi, le Parti libéral a tenu à préciser qu'il avait fait un bond à 212 000 $ dans les derniers jours. Ça veut dire, leçon morale de l'histoire, la marche anti-loi 96 a été payante.
Ça se
Quand le Parti libéral sort et dit « on est contre la loi 96, la loi 21 », puis on entend « ding, 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 ding ». Ils viennent de gagner au casino. Là, t'as les vieux andelots qui sortent de l'argent puis ils disent « ah oui, le Parti libéral va nous défendre, vous allez voir ça ». Fait que faut pas les sous-estimer, là. Le Parti libéral est habitué au pouvoir, accepte pas tellement à être dans l'opposition, c'est pas dans leur culture, vous le savez mieux que moi. Alors, je pense ils vont rebondir. Mais le PQ puis le Parti conservateur, Parti conservateur, 428 000, le PQ, 430 000.
Mais c'est un signe d'avoir des militants motivés. Le financement politique au Québec, c'est ça. Là. C'est juste...
Faites des marches. C'est payant.
Des manifs, c'est payant.
Mais des manifs, là. Tu sais, tout ce qui est... Pour le Parti libéral, c'est pas compliqué, là. Tout ce qui est contre la laïcité, contre la loi, le français, le fait français, comme tout ça, là, pour vous autres, c'est payant. Puis une petite marche en faveur des pitbulls, la compagnie de Mme Goldwater, ça...
Avec trois, quatre chevreuils.
Là. Mais hein, avec tes chevreuils.
Un dernier mot là-dessus, Mario.
Juste un mot pour dire, quand même, que dans le cas du Parti conservateur, c'est particulièrement important parce que mon commentaire tout à l'heure que dorénavant, depuis la commission Charbonneau, les partis politiques vivent entièrement avec principalement avec des fonds publics. C'est pas vrai pour un parti qui était pas déjà là. C'est vrai pour les partis qui étaient déjà en place parce que les fonds publics versés sont basés sur les résultats de la dernière élection, sur les votes obtenus. Alors, dans le cas du Parti conservateur, il est beaucoup plus dépendant des dons. Et donc, ces dons là, de ces gens très motivés, et on s'entend que c'est très anti-mesure pandémie. Là. C'est beaucoup ça qui a été le vecteur de mobilisation et qui a contribué à recueillir des dons. Mais ces dons-là étaient essentiels pour le Parti conservateur parce que lui peut pas se fier sur les fonds publics pour sa première élection.
S'il
obtient des bons résultats, il va être correct pour l'après. Là.
Mais il y a la variole du singe là, qui s'en vient. Et ça, ça va être payant pour le Parti conservateur.
Mais je pense pas que ça va mener à des...
Je pense pas que
ça va mener à des confinements. Mais de toute façon, moi, Benoît, sur la variole du singe, je me tais. Je ne me prononce pas. J'attends de connaître le point de vue de Maxime Bernier.
Et de Pierre Poilievre.
Moi, je me lance pas à tort et à travers à commencer sur quelque chose tant que les plus grands experts de la médecine n'ont pas tranché.
Bon. Je devrais prendre l'exemple.
Sagesse.
Sur toi. Pas sur Régent Thomas. Maxime Bernier. Je prends ça en note.
Voilà.
Faites comme nous et écoutez Bernier. Messieurs, passez une excellente fin de semaine. Profitez-en. Reposez-vous. Mardi, on se retrouve en forme.
Salut.
Salut.